Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du vendredi 13 octobre. Attention, vendredi 13 aujourd'hui. C'est Hélène Bédard qui vous parle. Avec moi en studio, Francine Forgette, bonjour.
Bonjour Hélène, je suis ici même en ce vendredi 13.
Êtes-vous sensible au vendredi 13?
Pas vraiment.
Non. Et avec nous à la régie, Jean-Sébastien Laliberté. Alors, êtes-vous sensible au vendredi 13?
Un petit peu.
Oups, on va y voir. Et sans... alors, merci. Sans toi, l'émission ne vous parviendrait pas, chers auditeurs. Alors, allons-y avec les présentations du sujet. Francine, aujourd'hui, vous allez nous parler de...
Bien évidemment, de sciences et technologies. Plus particulièrement de l'intelligence artificielle et peut-être d'autres sujets si le temps nous permet. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour du côté du cinéma.
Excellent, excellente perspective pour ma part. Je vais vous amener au niveau de la rentrée des travailleurs d'expérience et surtout à quel âge on est vieux. Alors, nous vous revenons dans un petit moment. Alors, nous sommes de retour et je vais laisser la parole à Francine Forget qui va vous présenter son sujet.
Alors, merci Hélène. Donc, je vous fais la lecture d'un texte de Nicolas Gendron dans le magazine Voir d'octobre 2017, « L'autre école de la vie ». Le réalisateur Francis Leclerc a toujours co-scénarisé ses longs métrages. Son allié du moment s'appelle Fred Pellerin. Un duo de choix pour s'avancer, pieds nus dans l'aube, en terre inconnue. Celui de l'enfance, celle de Félix, patriarche de la chanson québécoise. Il va sans dire que leur premier contact avec Félix Leclerc, non pas l'homme, mais l'écrivain derrière ce roman phare qu'est Pieds nus dans l'aube, n'a pas été du même ordre. Moi, c'était au cégep, se souvient Pellerin. J'étais inscrit en « Tu checkeras plus tard ce que tu vas faire dans la vie » et j'ai découvert la québécitude des Félix Godin Vigneault. Je crousais les bibliothécaires pour avoir le droit d'amener plus de livres la fin de semaine. Je dévorais tout. Pieds nus dans l'aube, ça n'a rien perdu de son lustre, au contraire. Ça prend de la dorure. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le fils de Félix, lui, n'a rencontré l'auteur qu'après sa mort. J'ai tout lu l'année qui a suivi. J'avais 16 ans. Je savais qu'il écrivait, mais la lecture, c'était pas mon fort. Et il était pratiquement retraité de la musique. Son dernier spectacle, j'avais 6 ans. C'était avec Claude Léveillé, à l'île d'Orléans. Il reconnaît avoir attendu de se forger un prénom pour adapter les écrits du paternel. Heureusement, je n'ai pas choisi la chanson. Mais sans doute ai-je ce talent de raconter des histoires comme lui. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'il est mort. Il nous a laissé cette matière-là. Alors prenons-la et poussons-la la plus loin. Le conteur de Saint-Élix renchérit. Quand on s'est mis à flirter pour travailler ensemble, j'avais peur. Parce que ça prend tout un front de bœuf pour aborder Félix. Mais comme Francis me parlait du roman de son père, ce n'était plus l'œuvre d'un intouchable. Tout à coup, c'est comme si on n'était plus invité chez Félix par la galerie, mais par la véranda, avec la permission de garder nos souliers dans la cuisine. Pour ceux qui n'auraient pas lu l'œuvre originale sur les bancs d'école, rappelons l'âme du récit, même si Leclerc et Pellerin ont bien sûr pris quelques libertés pour accentuer l'arc dramatique et fusionner quelques personnages. Le jeune Félix, Justin Lérolle-Bouchard, 12 ans, y vit son dernier été à la TUC avant son départ pour un collège d'Ottawa. Au village, gravitent autour de lui ses frères et sœurs, sa mère, Catherine Sénard, et son père, le fidèle Roy Dupuis, mon noyau avant même d'écrire « D'avouer Leclerc », son oncle, Richard Tauvette, le forgeron, Claude Legault, le barbier, Michael Gouin, et une certaine garde Lemieux, Marianne Fortier, qui lui fait tourner la tête. Sans oublier Fidore, Julien Leclerc, ce nouvel ami dégourdi issu d'une famille pauvre qui fréquente l'autre école, la Buissonnière, celle de la nature et de la vie à la dure. Si vous pensez que c'est le petit bonheur et mon père avec une guitare, vous allez être déçu, prévient Leclerc. C'est un film scandinave avec 4 saisons et sa simplicité me plaît. Ça peut toucher tout le monde qui a eu 12 ans. Au fond, on nous présente l'homme avant qu'il ne devienne l'artiste pour mieux toucher à l'universel. Alors voilà, c'est un extrait d'un article paru dans Le Voir et qui parle du prochain film de Francis Leclerc, adapté du roman « Pieds nus dans l'aube » de Félix.
Alors, nous revoici, Hélène Bédard au micro. Moi, je vais vous parler de la rentrée. Ça vient du journal, la revue Virage. Et je vais vous parler de... C'est aussi la rentrée pour bien des travailleurs d'expérience. Vous rêvez, sans trop y croire, d'un emploi à temps partiel qui vous laisserait de longues périodes de congés, notamment durant le temps des fêtes et pourquoi pas tout l'été. Eh bien, de tels emplois existent. Chauffeur d'autobus, brigadier scolaire, surveillant d'élèves, et sont massivement occupés par les 50 ans et plus. Autre bonne nouvelle, les employeurs cherchent des candidats. C'est un texte de Sophie Gagnon. Je poursuis. Pour se trouver un travail après 50 ans, il faut parfois se délester des préjugés qu'on pourrait avoir à propos de certains emplois et envisager des horizons différents. Think outside the box, comme on dit en anglais. En effet, loin des avenues traditionnelles telles que le commerce de détail ou de la restauration, se trouve peut-être l'emploi qui vous conviendrait parfaitement, que ce soit pour réorienter votre carrière ou pour un retour sur le marché du travail après une retraite dont vous vous êtes lassé ou qui vous appauvrit trop rapidement. Des emplois bien rémunérés. Prenons l'exemple du méconnu et mésestimé travail de chauffeur d'autobus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, être chauffeur d'autobus, ce n'est pas un emploi crève-faim. Le salaire horaire est de 19 à 20 $ de l'heure. Les personnes qui veulent faire plus de 20-25 heures semaine peuvent compléter en faisant des voyages nélisés. Explique Karine Sirois, coordonnatrice de vente et marketing du transport scolaire Sogesco, qui emploie 1000 personnes à travers le Québec et transporte quotidiennement 80 000 enfants. En ce moment, dans les 30 filiales de cette entreprise au Québec, environ 70 % des chauffeurs ont 50 ans et plus, 55 % d'hommes et 45 % de femmes. Nous sommes confrontés à une pénurie de chauffeurs d'autobus et nous ciblons donc les 50 ans et plus, qui sont fiables, ponctuels, disponibles et loyaux, résume Mme Sirois. À comparer aux chauffeurs plus jeunes, ils sont aussi moins durs sur la mécanique, en particulier les femmes. Note pour sa part Joël Hébert, directeur d'autobus des Voltigeurs à Drummondville, une autre des filiales de Sogesco. Il précise que la formation est offerte gratuitement aux apprentis chauffeurs. Je vous parle d'un chauffeur d'autobus comblé. Roger Labonté, qui porte manifestement très bien son nom de famille, est comblé par son travail. Le jour de l'entrevue, en juin, était aussi celui de son 75e anniversaire de naissance. Après avoir été chauffeur de camion, opérateur de métro, chauffeur d'autobus à Montréal, il a pris sa retraite à 63 ans et est revenu vivre à Drummondville. Mais il a vite trouvé le temps long. Je pensais être chauffeur d'autobus scolaire 3 ans et ça en fait 12. Seule la maladie m'arrêterait. J'aime voir les jeunes grandir. Ah, c'est sûr, il faut faire un peu de discipline, c'est certain, mais moi, je leur parle plutôt que d'être très sévère. Le respect s'installe rapidement car ils comprennent que mon autobus, ben, c'est moi qui le run. Lève-tôt, monsieur La Bonté a le temps de faire son circuit du matin pour la primaire et le secondaire avant même que son épouse ne se réveille. J'ai tous mes soirs, toutes mes fins de semaine et surtout tous mes étés. Et puis, entre mes circuits d'autobus du matin et de l'après-midi, j'ai le temps de jouer un 9 trous de golf, d'aller au gym ou encore de rendre visite à ma mère de 99 ans, dit monsieur La Bonté. Toute une génétique, ce monsieur. Puis, il se pointe la trempe du doigt et ajoute « Côtoyer des jeunes, ça nous garde jeunes dans la tête. » Être chauffeur d'autobus, c'est être en congé la moitié de l'année. Être brigadier ou surveillant d'élèves, c'est travailler au gré du calendrier scolaire, soit environ 180 jours par année. Ça a pesé lourd dans la balance pour Sylvie Houle lorsqu'elle a voulu effectuer un retour sur le marché du travail. Ses jeunes enfants étaient devenus de grands adolescents. Cela fait maintenant 11 ans qu'elle aide les élèves de l'école L'Escale à Laval à traverser la rue de façon sécuritaire. Et si son horaire de travail de brigadière scolaire, 1h le matin, 1h45 sur l'heure du midi et 45 minutes à la fin des classes, peut avoir un effet dissuasif pour certains, la cinquantenaire s'en accommode fort bien. Bien des gens croient que les brigadiers sont des bénévoles, mais ce n'est pas le cas. Ma rémunération, 20 $ de l'heure, tient compte de mon horaire brisé. Et puis, j'ai le temps d'aller faire des courses, du ménage ou de m'entraîner entre mes périodes de travail, même si je dois toujours garder l'œil sur ma montre, explique cette ex-pâtissière. Elle aime être dehors, peu importe les conditions météo. Il suffit d'être bien habillée et elle raffole du contact quotidien avec les parents et les enfants. Je me sens utile et appréciée et pour moi, être libre l'été n'a pas de prix, dit celle qui souhaite continuer à être brigadière au moins 10 autres années. Brigadier demandé. Dans la plupart des cas, les brigadiers scolaires sont embauchés par les municipalités et relèvent du service de police. À Laval, 60% des brigadiers sont des femmes. Quant aux perspectives d'emploi, elles varient d'une année à l'autre et selon les secteurs. Et surtout, les banques de candidatures sont parfois très basses, affirme Chantal Filion, responsable de la brigade scolaire au service de police de Laval. Une autre possibilité est de devenir surveillant d'élèves dans la cour d'école et dans les corridors. Ces postes relève des commissions scolaires. Visitez donc maindœuvre50plus.com si vous souhaitez trouver un nouvel emploi ou effectuer un retour sur le marché du travail. Visitez régulièrement donc ce site, un portail web lancé l'automne dernier par le réseau FADOC. C'est un site sécurisé qui peut être consulté sur différents supports, est doté d'un moteur de recherche et regroupe les postes à combler par région. S'inscrire est simple et gratuit, autant pour les travailleurs d'expérience que pour les entreprises. Alors voilà, c'est un texte de Sophie Gagnon de la revue Virage et c'est la tendance du jour.
Je m'appellerai l'amour, je te courtiserai, je m'appellerai la peur, je te défendrai. Je m'appellerai la nuit, je t'illuminerai. Je m'appellerai la mort, je t'épargnerai. Pour te faire langueur, comme tu m'as fait sous l'heure, je m'appellerai le vin, je te blesserai. Ne me crois pas méchant, écoute mon couplet. Je m'appelle douleur, et tu es ma demeure. J'ai tant battu les rues, j'ai tant battu les heures, qu'enfin tu es venu, comme en mer la lueur. T'as dit j'aime les fous parce qu'ils aiment les fleurs. Mis dans tes deux mains nues, ma raison et mon cœur. Ne me crois pas avant, ne crois pas servant. Je t'aime tant et tant, maintenant tu le sens. Traverseront les pleurs, traverseront les ans, traverseront les temps, mon fardeau, ma chaleur.
Alors, on parlait précédemment de Félix Leclerc et de Fred Pellerin. Quelle meilleure occasion que maintenant pour se faire plaisir en entendant Douleur de Fred Pellerin, à l'origine par Félix Leclerc.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Toujours aussi délicat dans tes choix. Merci. Nous allons poursuivre avec Francine Forget, qui va nous introduire à...
l'intelligence artificielle. Alors, chaque année, InfoPresse Communication choisit ses personnalités de l'année dans différents domaines. Cette année, en octobre 2017, M. Yoshua Benjo, qui est le pionnier de l'intelligence artificielle, bon, alors a été choisi personnalité dans ce domaine. Catherine Martellini, nous en parle sur le site comme tel. Alors, je vous lis ce portrait de Yoshua Benjo. Véritable star de l'intelligence artificielle, Yoshua Benjo a réussi à mettre Montréal sur la carte et à convaincre les Facebook, Google et Microsoft de ce monde d'investir des millions dans la ville, qui pourrait bien devenir la Silicon Island de la prochaine génération. L'intelligence artificielle d'hier à aujourd'hui. Reconnu comme un des trois grands experts mondiaux en intelligence artificielle, Yoshua Benjo l'a observé pendant qu'elle grandissait dans les années 80. Pour atteindre sa première période de gloire en 1990, puis sombrer dans l'oubli jusqu'en 2010, après quoi elle a pu renaître de ses cendres. Les attentes avaient été déçues, notamment en raison de certains joueurs qui avaient recouru à un marketing trop prometteur, alors que le produit final ne livrait pas les promesses, explique le chercheur. Au début de 2000, plus que quelques groupes travaillaient à l'intelligence artificielle au Canada et ailleurs. Yoshua Benjo est l'un de ceux n'ayant jamais cessé d'y croire. Des premières caisses bancaires qui lisaient les chèques, produites par le scientifique français Yann LeCun, recruté par Facebook et lui, les applications de l'intelligence artificielle ont décuplé. Elles font désormais partie intégrante de nos vies, que ce soit la recherche d'images en ligne, les assistants vocaux comme Siri et Cortana, ou les algorithmes pour connaître les habitudes et intérêts d'un groupe. Le marketing de demain, lui, reposera sur le développement de la compréhension du langage. Les progrès en apprentissage automatique liés au langage permettront de lier des sources d'informations pour mieux promouvoir un produit et trouver des renseignements clés. Un développement au stade de grenouille. Il ne faut pas se leurrer. L'intelligence créée artificiellement n'est encore qu'au stade de la grenouille, a confié le chercheur lors de son passage à Tout le monde en parle au début de 2017, en le comparant à celui de l'intelligence humaine. Raison de plus, selon lui, pour ne pas cesser le financement dans la recherche fondamentale. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs investi 100 millions de dollars dans ce domaine à Montréal ces dernières années. Ces investissements ont permis de créer une concentration de chercheurs ici. Plusieurs Québécois et Français reviennent des États-Unis pour s'établir ici. Ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle qui n'est pas encore arrivée à maturité. La part de marché de l'intelligence artificielle en matière de développement commercial demeure relativement minuscule. Ça ressemble au moteur à explosion ou à l'électrification que seule une poignée de personnes avaient développé au 19e siècle et qui n'occupait pas une grande place dans l'économie, soutient-il. Sauf que 50 ans plus tard, c'était partout. C'est probablement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, qui pourra être utilisée dans toutes sortes de secteurs économiques. Rester ou partir. L'exode des cerveaux vers la vallée californienne demeure un problème que bien des domaines scientifiques vivent depuis longtemps, notamment en raison du salaire avoisinant le million qu'ils peuvent toucher ailleurs. Le bassin de chercheurs en intelligence artificielle a pourtant décidé de rester ici, un choix qui s'explique par plusieurs facteurs circonstanciels. La sommité en apprentissage profond est reconnue comme telle aussi pour son travail de vulgarisation afin d'arriver à traduire toute la complexité aux entreprises désireuses de passer en troisième vitesse. Yoshua Binjo est aussi nouvellement ambassadeur de Technopolis, une initiative du milieu des affaires, des universités et des associations qui vise à faire de Montréal une marque technologique dans le but de générer un sentiment de fierté collective et une mobilisation sans précédent de l'industrie. Des formations plus courtes permettraient de former plus de gens. Yoshua Binjo montre également une volonté de faire le bien avec l'intelligence artificielle par des applications avec un impact positif dans la vie des gens d'un point de vue sociétal et humanitaire. Oumila, nous souhaitons participer au débat social sur les enjeux éthiques entourant l'intelligence artificielle, parce que le développement de la technologie vient avec une responsabilité que laquelle le scientifique entend endosser pleinement dans les prochaines années. Cela ajoutera une corde de plus à son arc qui s'est transformée en véritable arbalète sophistiquée tellement ses contributions à l'avenir de la société sont et seront nombreuses. Alors, pour consulter le dossier complet sur Yoshua Binjo ou d'autres personnalités de Infopresse Communication 2017, infopresse.com.
Nous allons poursuivre avec un sujet qui touche la retraite. Et j'ai une question d'abord. À quel âge est-on vieux? La Société japonaise de gériatrie propose que les Japonais soient considérés comme des personnes âgées à 75 ans et non plus à 65, comme c'est le cas actuellement. C'est un texte que j'ai trouvé de Catherine Dubé dans la revue Actualité via Internet, voilà Internet. Ce seuil est terriblement dépassé, selon la société, ne colle plus à la réalité puisque les gens vivent en bonne santé beaucoup plus longtemps qu'avant. Cela changerait la perception à l'égard des personnes de 65 à 74 ans qui souhaitent encore travailler. Nombre d'entreprises encouragent en effet leurs employés à prendre leur retraite à 65 ou même à 60 ans. La société de gériatrie ne prône cependant pas une modification de l'âge minimum pour accéder aux rentes du régime public de retraite. L'État a déjà résolu de faire progressivement passer ce seuil de 60 à 65 ans d'ici 2025 afin de contrer les effets du vieillissement de la population sur les finances publiques du pays. Pour faire suite à ce commentaire, doit-on prendre sa retraite sans fonds de pension?
Monique Landry, 61 ans, devra vivre à la retraite grâce à ses épargnes personnelles et au régime public. Son REER lui suffira-t-il? Devrait-elle vendre sa maison? Elle adore son travail dans le domaine de la publicité et veut s'y adonner le plus longtemps possible. N'empêche, si sa source de contrat venait à se tarir, elle se demande si elle pourra prendre une retraite confortable à 65 ans. Mon REER ne suffira-t-il? Devrais-je vendre ma maison? Je m'y connais peu en placement et j'aimerais y voir clair. Sans enfant, cette femme habite seule. Après avoir occupé des postes de direction, elle est à son compte depuis peu et gagne 80 000 $ par année. Nous avons ici le portrait de ses finances. Pour qu'elle puisse alors maintenir son rythme de vie, le planificateur estime qu'elle aura besoin de revenus annuels avant impôt d'au moins 49 000 $ par année, soit 4 000 $ par mois. Somme qui grimpera au rythme de l'inflation. Son défi, c'est de ne pas épuiser son capital avant d'avoir atteint 90 ans, qui est l'espérance de vie actuelle d'une personne de son âge, dit le spécialiste. Primo, elle doit faire croître son REER au maximum au cours des prochaines années en tirant profit de ses cotisations du REER inutilisées. Pour y parvenir, elle puisera dans ses liquidités et les remboursements d'impôts générés par cette injection pourraient aussi être injectés dans son REER. Secondo, elle doit maximiser les argents placés dans son CELI. Elle pourrait les placer dans des fonds équilibrés, ce qui lui rapportait, soi-disant, un rendement moyen de 5 %. Et tertio, elle doit envisager, à plus long terme, de réduire son train de vie. La solution, vendre sa maison qu'elle considère déjà comme trop grande pour déménager dans une propriété moins coûteuse. Le gain en capital généré par cette vente constituerait un coussin financier supplémentaire. En adoptant ce plan d'action, elle parviendra ainsi à étirer son capital jusqu'à 85 ou 90 ans, peut-être bien. Alors, c'est à y penser. Prendre sa retraite sans fonds de pension, c'est un texte de Simon Diotte et c'est disponible dans la revue Actualité Volet Internet. Nous vous quittons pour la pause et ne nous quittez pas, vous. Nous revenons après. Merci.
Stone you and then
C'était bien sûr Bob Dylan avec ce classique de 1966 qui ne s'intitule pas Everybody Must Get Stoned comme on pourrait le penser, mais bien Rainy Day Women 12 and 35.
Toujours un plaisir de réentendre ces choix musicaux. Merci Jean-Sébastien. Hélène Bédard, alors je vous reviens avec un texte que j'ai répertorié toujours dans la revue Actualité, voilà Internet. Il s'intitule « Le problème de Heidi ». Quand une femme convoite le pouvoir et tente de s'imposer avec le même aplomb qu'on trouve naturel chez l'homme, ça nous met mal à l'aise, ou pire, ça nous rebute. Howard Roizen fait partie du gratin de Silicon Valley. Cet ex-entrepreneur en haute technologie, ancien cadre chez Apple, est aujourd'hui un prospère investisseur en capital de risque. Reconnu pour son charisme, ami des riches et des puissants, il n'a jamais hésité à mettre à profit son vaste réseau de contacts pour propulser sa carrière. Deux professeurs de gestion ont présenté ce cas en classe. Les étudiants aimaient bien cet Howard. Il leur semblait compétent, efficace, le genre de type qu'ils voudraient bien embaucher ou avoir comme collègue. Mais si on leur présentait une histoire identique en remplaçant le nom de Howard par celui de Heidi, alors leur jugement basculait. Les étudiants trouvaient la femme tout aussi compétente, mais plutôt égoïste et pas vraiment aimable. Bref, ils n'avaient pas envie de travailler avec elle. La seule différence entre Howard et Heidi était leur sexe, rien d'autre. Cette expérience menée par des chercheurs des universités de New York et de Columbia au début des années 2000 illustre l'une des forces les plus puissantes qui entravent l'ascension des femmes sur le marché du travail. Ça s'appelle les préjugés inconscients. Bien qu'il soit illégal d'écarter les femmes d'un poste en raison de leur sexe, la discrimination à leur égard n'a pas disparu pour autant. Des stéréotypes profondément ancrés continuent d'influencer nos perceptions, parfois sans que nous en ayons conscience, telles des lentilles déformantes qui nous empêchent d'évaluer objectivement la candidate devant nous. C'est ce qui est arrivé à Heidi. Les psychologues étudient depuis longtemps ce genre de travers de l'esprit qu'ils appellent des biais cognitifs. Des raccourcis mentaux, souvent automatiques, qui nous aident à trier l'information dont nous sommes inondés, à donner un sens à notre environnement et une certaine prévisibilité à nos relations humaines. Mais ces automatismes peuvent aussi brouiller notre jugement, comme lorsqu'on associe spontanément l'agressivité et l'opportunisme en affaires à un homme, et qu'on grimace quand on perçoit les mêmes traits chez une femme. Une généralisation inoffensive si on participe à une expérience en classe, mais combien lourde de conséquences si on est responsable du recrutement dans une entreprise. Si on ne se méfie pas, ces idées préconçues peuvent s'insinuer dans les décisions en matière d'embauche, de paye, d'évaluation et de promotion, et ainsi creuser au fil du temps d'importants écarts entre les hommes et les femmes. Des dizaines d'études scientifiques menées tant en laboratoire que sur le marché du travail le confirment. Par exemple, une expérience réalisée à l'Université de Yale a montré qu'entre deux CV identiques, l'un portant le nom d'une femme et l'autre celui d'un homme, des profs d'université jugeront le candidat masculin supérieur et seront même prêts à lui offrir un salaire plus élevé pour un poste de chef de laboratoire. Ces travaux ont été relatés en 2012 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. D'autres chercheuses des universités Rutgers, Harvard et Yale, notamment, ont constaté que les femmes, mais pas les hommes, font mauvaise impression si elles vantent leurs compétences lors d'une entrevue d'embauche, si elles prennent l'initiative de négocier leur salaire, si elles parlent beaucoup en réunion, même si elles sont patronnes. Ce sont de nouveau les préjugés inconscients qui sont à l'œuvre dans le fin fond de notre esprit. On s'attend encore à ce qu'une femme s'efface et se soucie davantage du bien-être collectif que de ses intérêts personnels. Et quand elle convoite le pouvoir et tente de s'imposer avec le même aplomb qu'on trouve naturel chez un homme, ça nous met mal à l'aise ou pire, ça nous rebute. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et concrètes que les employeurs peuvent mettre en œuvre pour neutraliser les préjugés sexistes. Des méthodes éprouvées qui peuvent rendre le processus d'embauche, de rémunération et de promotion plus objectif. Dans les orchestres symphoniques, par exemple, le nombre de femmes engagées comme musiciennes, autrefois minime, a considérablement augmenté depuis que les auditions se tiennent à l'aveugle, c'est-à-dire à l'aide d'un rideau ou d'un écran qui cache aux jurés l'identité et le sexe de la personne jouant devant eux. Certaines des plus grandes entreprises de la planète ont fait des bonds de géants en matière de représentation féminine grâce à ce genre d'approche. À chaque organisation maintenant de mettre en place, évidemment, sa propre version de ce rideau anti-préjugés. Un texte inspirant de la revue Actualité, signé Noémie Mercier, septembre 2017. Alors, nous poursuivons avec Francine Forgette qui nous introduit.
Oui, alors on va continuer avec la revue Actualité, format papier, octobre 2017. Dans ce numéro, Valérie Borde pose une question. Faut-il avoir peur du surdiagnostic du cancer? La plupart des cancers pourraient bien être inoffensifs, laisse entendre Barry Kramer, directeur de la prévention au National Cancer Institute des États-Unis, au vu des études de plus en plus nombreuses relatives au surdiagnostic engendré par les programmes de dépistage. Lors d'un récent congrès international sur la question tenu à Québec, le spécialiste a comparé le cancer à un iceberg. Dans la partie émergée, les cas qui se manifestent par des symptômes et qui, si rien n'est fait, évolueront jusqu'au décès. Dans la partie cachée, que l'on connaît mal, une multitude de cancers asymptomatiques qui progressent trop lentement pour causer la mort ou disparaissent d'eux-mêmes. Depuis les années 1970, de nombreux programmes de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate et du poumon notamment, ont été mis sur pied un peu partout dans le monde en se basant sur la prémisse qu'un cancer repéré tôt, avant même qu'il se manifeste, avait plus de chances d'être éliminé. Même si ces programmes ont sauvé des vies, ils ont aussi engendré beaucoup de surdiagnostics, exposant des milliers de gens à des interventions chirurgicales ou des chimiothérapies inutiles et parfois risquées. Plutôt que de repérer seulement des cancers de la pointe de l'iceberg, ils ont fait ressortir une partie de ceux de la partie immergée et montrer que celle-ci est plus importante que ce que l'on croit, souligne Barry Kramer. Au Québec, selon le ministère de la Santé, 10 cancers sur les 77 repérés chez 1000 femmes par le programme de dépistage par mammographie constituent du surdiagnostic. Mais dans d'autres pays, où on recommande plus de mammographie, les études montrent que près du tiers des cancers détectés n'auraient pas eu de conséquences. Et c'est encore pire pour le dépistage du cancer de la prostate que le Collège des médecins du Québec ne conseille plus aux hommes en bonne santé depuis 2013, puisque 17 cancers sur les 18 repérés par tranche de 100 hommes par ce dépistage systémique correspondrait à du surdiagnostic. Mais l'idée qu'un diagnostic trop hâtif puisse être nuisible est tellement contre-intuitive qu'elle a du mal à faire son chemin, note Barry Kramer. Dans un article publié dans la revue Nature, le spécialiste appelle les chercheurs et les autorités publiques qui les financent à consacrer plus d'efforts à mieux comprendre tous ces cancers inoffensifs. Alors, la chronique de Valérie Borde dans l'actualité, livraison d'octobre 2017.
Je vous reviens, Hélène Bédard, je vous reviens donc avec un texte que j'ai tiré du Devoir et écrit par Mme Francine Pelletier le 4 octobre dernier. Ça s'intitule « La liberté est un oiseau ». Lorsqu'une police d'État tire sur ses propres citoyens, cartouche en caoutchouc ou pas, lorsqu'elle sabote des bureaux de scrutin et brutalise des manifestants afin d'empêcher des gens de voter, alors la démocratie, pourrait-on dire, se porte bien mal. Je parle bien sûr du référendum en Catalogne qui a viré au chaos dimanche dernier. Mais lorsque les États environnants, les gouvernements amis, de proche ou de loin, détournent tous, à quelques exceptions près, le regard, ne sentent pas le besoin de s'élever devant une telle répression, se portent même à la défense du gouvernement espagnol comme l'a fait Emmanuel Macron, alors le verre n'est pas seulement dans la pomme. Force est de constater que la fibre démocratique se dégrade un peu partout. Bien sûr, la question d'indépendance est une patate chaude. Aucun chef de gouvernement ne veut s'en mêler de peur d'y goûter à son tour. Mais au-delà du simple calcul politique, où est le devoir moral de protéger les innocents? Où est la défense de la liberté d'expression? La nécessité de rappeler que le droit à l'autodétermination est un droit universel qui dame le pion à toute provision constitutionnelle, quelle qu'elle soit? Devant un enfant qui se noie, se demande-t-on si l'enfant jouait trop près de la falaise? Non. Devant l'intolérable, on bouge, on s'indigne, on se doit aussi de le faire. Comparons maintenant cette vaste indifférence devant le dérapage politique espagnol à la levée de boucliers devant le dérapage économique grec. Deux crises qui, au sein de la communauté européenne, ont suscité deux réactions tout à fait opposées. À l'été 2015, devant la difficulté de rembourser ses dettes, le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras a été traité de tous les noms. Il nous faut des adultes dans la pièce, dira la chef du FMI, Christine Lagarde. Il a été acculé à la faillite et forcé d'implanter des mesures d'austérité contre lesquelles il avait mené campagne et avait été élu 6 mois auparavant. Faisant fi du verdict des urnes, la nouvelle Rome, le triumvirat constitué du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque de la Commission européenne, n'a pas hésité à imposer aux Grecs sa loi à coups de pied au cul. Un an et demi plus tard, devant une situation plus troublante, l'écho des bottes de la Guardia civile, rappelant les heures sombres du fascisme espagnol, pas de semonce, pas d'ultimatum, pas d'obligation de redresser la barre. Une admonestation du bout des lèvres de la part de la Commission européenne encourageant tous les acteurs à passer de la confrontation au dialogue. Un point, c'est tout. Serait-ce que nous n'avons plus qu'un Dieu devant lequel s'agenouiller, qu'une valeur qui vaut la peine d'être défendue, celle de la sacro-sainte économie, à l'instar du philosophe Michel Foucault, le premier à mettre en garde contre la montée de l'homo economicus, plusieurs voient aujourd'hui ce nivellement des valeurs démocratiques dont le référendum catalan est un parfait exemple. Comme une conséquence directe du néolibéralisme, pourquoi? Parce que plus le rôle et la légitimité de l'État sont liés à la croissance économique, écrit la politicologue américaine Wendy Brown, plus les préoccupations de justice sociale ont tendance à reculer. Aujourd'hui, la liberté suprême est celle du marché avant celle du simple citoyen. Un marché qui, par définition, est inéquitable, créant tous les jours des gagnants et des perdants et imposant sa loi du plus fort. L'histoire des 40 dernières années est l'histoire du ratatinement de l'espace politique au profit de l'espace économique. L'ère n'est plus aux grandes idéologies, que ce soit les utopies de gauche ou les projets totalitaires de droite. Les problèmes de l'heure sont presque tous des questions d'argent, la corruption, les inégalités sociales. 8 hommes possèdent aujourd'hui autant que la moitié de la population mondiale. Le culte des ressources énergétiques,
massacrant toujours un peu plus l'environnement. Un autocrate comme Donald Trump, un dirigeant qui tous les jours piétine les principes démocratiques, ne serait jamais parvenu au pouvoir sans cette déification du monde des affaires dont il est la pathétique incarnation. Le temps serait-il venu d'inverser nos valeurs, comme nous le rappelle le drame catalan? La liberté est chose bien plus fragile que le prix de l'or. Sans une vigilance de chaque instant, sans réitérer que c'est la capacité de chacun d'entre nous de contrôler son destin qui rend la vie belle et une société forte, elle peut aussi s'envoler. Je rappelle ce texte de Francine Pelletier dans Le Devoir, le 4 octobre 2017. Nous sommes de retour avec un beau texte de Francine. Je te laisse la parole.
Oui, alors, cuire à petit feu, Hélène. Dans l'actualité, toujours d'octobre 2017, Jean-Philippe Cipriani nous présente le dernier essai de David Suzuki, écrit en collaboration avec Ian Hannington. Comment parler du réchauffement climatique sans ressasser des arguments mille fois entendus? David Suzuki, star environnemental à CBC, tente le coup dans Halte à la surchauffe, co-signé avec le rédacteur de sa fondation, Ian Hannington. L'animateur rappelle que le réchauffement planétaire est la cause et les changements climatiques la conséquence, et que le réchauffement est non seulement une certitude scientifique, mais l'hypothèse la plus contre-vérifiée dans l'histoire de la science. Les faits ont cependant la vie dure. Certains nient l'existence de réchauffement, d'autres considèrent qu'il s'agit d'un phénomène naturel sur lequel nous n'avons aucune prise. Pourtant, les effets sont aussi quantifiables qu'attestés. Ainsi illustre Suzuki, l'ouragan Sandy, qui a dévasté les Caraïbes en 2012, n'a pas été causé par les changements climatiques, mais sa force démesurée en est une conséquence. À la faveur du réchauffement, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère a augmenté de 5 % depuis les années 1950, tandis que le niveau des océans a gagné 19 cm depuis le début du 20e siècle. Comme l'atmosphère renferme plus d'humidité et d'énergie qu'autrefois, et que les océans sont plus chauds, on doit s'attendre à des ouragans plus violents, écrit-il. Les conséquences sur les espèces animales s'annoncent désastreuses. Tandis que 2,8 % des espèces sont déjà en voie d'extinction, la proportion atteindra 5,2 % si le réchauffement dépasse les 2 degrés Celsius. Et pour les humains, la sécheresse et la flambée des prix des aliments qui en a résulté aggrave l'agitation sociale. Les terres arides et le chômage pousseront des millions de personnes à tenter d'émigrer vers le nord. Suzuki ne tombe pas dans le piège des choix individuels. La lutte contre le réchauffement, dit-il, est affaire de volonté politique avant tout. Elle passe par la fabrication de biens durables et l'abandon progressif du pétrole. Pourtant, il se situe dans le camp des optimistes, où les avancées technologiques viennent pallier en partie le manque de volonté politique. L'électricité de sources renouvelables a vu ses coûts de production diminuer, au point où elle est désormais concurrentielle par rapport à l'industrie des combustibles fossiles lourdement subventionnée. Et s'il se trompait, demande-t-il à la fin de l'ouvrage, et que le réchauffement climatique était réellement insignifiant, on se retrouverait avec des sources d'énergie plus vertes, moins de pollution, une économie sans doute plus forte et des combustibles fossiles de grande valeur en réserve pour le jour où l'on aura appris à les utiliser de façon judicieuse en évitant de les gaspiller. Alors voilà le compte-rendu de Jean-Philippe Cipriani sur le dernier essai de David Suzuki, Halte à la surchauffe, écrit en collaboration avec Ian Hannington.
Eh bien, me voilà de retour. J'ai fait une belle trouvaille dans toujours la revue Virage, c'est ma revue chouchou, et qui concerne, c'est un babillard, c'est au babillard, et je vais vous l'envoyer comme ça, je trouve ça tellement beau. La liberté en moto adaptée. Je vous en parle. Ça va m'en prendre beaucoup pour accrocher mon casque, lance Pierre Pichette, qui fait tourner les têtes sur sa moto trois roues adaptée, son fauteuil roulant accroché sur le siège du passager. Pour lui, rien ne vaut la sensation du vent sur son visage, les odeurs ambiantes et la découverte des belles routes secondaires du Québec. Les gens sont curieux de voir comment j'ai adapté mon Spider et ébloui en constatant que je peux m'installer seul sur mon fauteuil roulant en descendant de ma moto. Le mot autonomie est encore très important dans mon vocabulaire, dit le sexagénaire, atteint de la poliomyélite dégénérative. Monsieur Pichette n'en est pas à ses premiers exploits, puisqu'il a participé aux Jeux paralympiques à trois reprises et à deux Coupes du monde en hockey luge. À la suite du décès de son épouse en 2015 après 43 ans de mariage, ses trois fils l'ont incité à renouer avec la moto. Ils l'ont aidé à adapter un premier trois roues, puis un second, acheté tout neuf, à temps pour la saison 2017. Monsieur Pichette vise 10 000 km d'évasion avant l'arrivée des grands froids. Si vous le croisez sur la route, levez le pouce et souriez-lui. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'aimerais remercier Francine Forgette, excellente collaboratrice. Merci, Francine.
Ben merci, Hélène, et à la semaine prochaine.
Et merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde.